Bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre entre Fanny Taillandier et Bernardo Carvalho. Fanny Taillandier publie Au Seuil dans la collection Fiction et compagnie par les écrans du monde, un livre à partir du 11 septembre 2001 et des images parfaites et pourtant incompréhensibles, c'est une citation d'elle, que cet événement a produit. Elle a déjà publié Les Confessions d'un monstre, c'était chez Flammarion en 2013, et un livre hybride et génial que je vous conseille qui s'intitule, c'est un titre alambiqué, alors je le lis, Les États et Empires du lotissement grand siècle, c'était aux Presses universitaires de France en 2016, qui était une réflexion sur notre habitat et les ruines qu'il peut produire, dont je ne sais pas s'il faut le recommander chaudement ou l'interdire à quiconque vit en zone pavillonnaire. Bernardo Carvalho, bonsoir. Vous publiez, vous, Sympathie pour le démon, chez Métellier, votre éditeur habituel. Je plains déjà votre... vous avez un éditeur anglais quand il va devoir négocier les droits avec les Rolling Stones. Parce que ça va être dur de garder le titre, même oui. Si... vous précisez d'emblée, je vous cite, que bien que le titre de ce roman fasse une mention explicite à la chanson des Rolling Stones, le sens est autre. Sympathie en anglais veut dire considération. Dans le titre de mon livre, la sympathie pour le démon est vraiment de la sympathie. Ça veut dire quoi?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça veut dire que, je crois que comme un français, sympathie en portugais, ça veut dire d'avoir de la sympathie pour quelqu'un, justement. C'est, dans le livre, c'est de l'amour. C'est un peu l'amour pour le démon et c'est pas de la considération.
Je précise pour ceux qui ne vous connaîtraient pas que vous venez donc de São Paulo, où vous êtes romancier, vous avez été journaliste, mais que vous parlez donc parfaitement français, comme on vient de l'entendre, notamment parce que vous étiez le correspondant à Paris de la Folia de São Paulo, c'est ça? Enfin, bon, désolé, hein, moi je prononce le portugais et l'anglais aussi mal l'un que l'autre, puisque je suis un pur produit du système scolaire français et de son insistance pour l'oralité des langues. Comme souvent, donc votre livre Sympathie pour le démon nous entraîne avec une écriture nerveuse et non linéaire sur beaucoup de territoires. Là, on va au Mexique, en Allemagne et sur une terre de djihad non identifiée mais facilement reconnaissable. On va tisser quelques correspondances, hein, c'est le jeu de ces rencontres. Aussi souligner quelques singularités, parce que c'est deux livres qui ont peut-être des toiles de fond proches, mais qui se distinguent et dans les dispositifs d'écriture et dans les univers qu'ils créent. Mais peut-être quand même une question qu'on pourrait formuler pour tous les deux. Comment est-ce qu'on se décide à écrire, alors pas sûr, mais avec des événements comme le djihadisme ou le terrorisme qui sont partout, à la télévision, dans les journaux. Fanny Taillandier, pour commencer.
Bon, en fait, la question est un peu biaisée pour moi parce que je n'ai pas vraiment décidé d'écrire là-dessus. Enfin, je l'ai décidé très tard par rapport au moment où j'ai commencé à m'y intéresser à cet événement du 11 septembre. Je m'y suis intéressée parce que je ne le comprenais pas du tout, en fait. C'est arrivé quand j'étais encore jeune, adolescente. Et, je ne connaissais pas New York, donc je n'avais jamais vu ces tours. Et ces images étaient complètement privées de sens, mais vraiment littéralement, quoi. C'est-à-dire que je me souviens comme tout un chacun du moment où je les ai vues et où j'ai vu ces deux immeubles absolument identiques qui sont déjà en soi particulièrement, enfin esthétiquement intéressants, quoi. Et puis le ciel parfaitement bleu derrière parce qu'il faisait très beau à New York ce matin-là, et les avions très horizontaux qui rentrent perpendiculairement dans ces tours. Donc dans une stupéfaction assez totale et ne sachant même pas si c'était la réalité ou une fiction. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte près de 10 ans plus tard que en fait ces images ne m'avaient jamais quitté, quoi, et que très régulièrement j'allais essayer de comprendre un peu plus. Ça restait le mystère que ça avait été à ce moment-là. Et donc du coup j'ai fini par me dire bon, je vais en faire un livre, mais c'était au terme d'une telle documentation que la question qui s'est posée c'était plutôt comment en parler et comment faire un roman, puisque c'est pas du romanesque en fait, c'est notre histoire et c'est ce qu'on a vécu de près ou de loin. Donc comment est-ce que les outils de la littérature pourront rendre compte de ça, de cette longue enquête?
Ça, on a une heure pour en discuter. Vous, même question, même si, voilà, Bernardo Carvalho, en dépit de la couverture de votre livre, c'est pas un livre sur le terrorisme, mais néanmoins, il y a quand même en toile de fond le djihadisme, les attentats du 13 novembre à Paris.
Oui, mais de toute évidence, c'est pas, le sujet n'est pas le terrorisme dans le livre. C'est surtout le noyau, c'est plus, enfin, le cœur du roman, c'est un personnage, c'est le protagoniste. Et c'est quelqu'un, moi je voulais parler du désir, mais du désir lié à la violence aussi, et du désir surtout comme quelque chose qui est contradictoire en nous, quelque chose qui est dans nous, mais qui c'est comme un rebelle en soi, à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est par ce personnage-là, et c'est pour ça que le terrorisme apparaît, c'est que c'est un type qui, dans la vie publique, la vie professionnelle, travaille avec la violence. Il a même inventé une méthode de gérer ou de combattre la violence qui est nouvelle, enfin qui est inédite. Et il est très reconnu dans ce milieu-là de ONG internationales et tout ça. Il travaille en Afrique, en Moyen-Orient et tout ça. Il est très reconnu, très compétent. Et ce qui lui arrive à la cinquantaine, c'est qu'il tombe dans un piège, il tombe dans une relation perverse avec un autre homme. Et là, il a un point faible dans sa structure psychique. Et c'est qu'il ne sait pas comment faire face à la violence quand la violence elle est intime, sexuelle et amoureuse. Et c'était plutôt de savoir comment travailler cette contradiction d'un personnage qui, pas par hasard, a décidé de travailler avec la violence comme pour s'échapper à quelque chose qui était un point faible, inné en lui, non ? Et c'est là que le terrorisme apparaît, mais comme, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment le cœur du roman.
Et alors, comment garder le micro, parce que je vais tout de suite reposer une question. Ce personnage, il s'appelle le rat. Les personnages ont des surnoms hein, dans votre ouvrage. Il y a le rat, le chihuahua, le clown. Comment est-ce qu'on insère quand même des personnages donc, de fiction, des personnages romanesques, dans une histoire qui est, voilà, qui est quand même l'histoire de la violence et du terrorisme contemporain?
Oui, pour moi, c'était de raconter une histoire intime, perverse. C'était pas spécialement nouveau. C'était quelque chose que plusieurs écrivains ont fait, peut-être beaucoup mieux que moi. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt la contradiction et l'idée de et surtout aujourd'hui, parce qu'on est en train de combattre le désir dans les luttes politiques, la militance des identités, par exemple partout en France, j'imagine, au Brésil, aux États-Unis, il y a l'idée que le désir, c'est le mal et qu'il faut le combattre parce qu'il y a quelque chose dans le désir qui est contradictoire, justement. Et c'est là qui est bizarre parce qu'on reconnaît chez les terroristes le même but, quoi. Les désirs sont insupportables pour eux aussi. C'est pas par hasard qu'ils attaquent le Bataclan et pas le siège du Front National à Paris. C'est parce que le désir et surtout le plaisir de l'autre est insupportable. Et le désir, il montre quelque chose en nous qui c'est un monde de contradictions et qu'il faut faire face à ça parce que ça va être toujours ça malgré les religions, les dogmas, je sais pas quoi. Et alors ça m'intéressait de travailler les désirs comme une contradiction et comme quelque chose qui a une force politique et qui peut être insupportable et qui peut être associé au mal, au bien, mais qui est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Et alors mon sujet dans ce livre-là, c'était plutôt le désir. Et je croyais que le maître... en confrontation, on dit, avec l'actualité, marchait bien, quoi. Il avait quelque chose du rôle du désir aujourd'hui dans le monde qui était particulier et inédit.
Question similaire, Fanny Taillandier. Vous, c'est une coïncidence, c'est pas une coïncidence, mais il y a aussi trois personnages principaux. Il y a Mohamed Atta et il y a deux personnages vraiment de fiction, Lucie et William. Comment est-ce qu'on fait comme ça, littérairement, on met ensemble des personnages de vos histoires qui rencontrent ceux de l'histoire commune ?
Bah déjà, autre coïncidence, le titre de travail que j'avais donné à ce roman, c'était Le désir du chaos. Donc je pense qu'en fait, c'est quand même pas très loin de ce que vous venez d'exposer. Alors effectivement, il y a trois personnages, deux qui sont des citoyens américains, pour le dire vite, qui sont frères et sœurs, qui sont confrontés à ce chaos qui surgit ce jour-là du 11 septembre dans leur vie, puisque l'une est à New York, l'autre est à Boston, d'où sont partis les avions, et ils travaillent à la sécurité de l'aéroport de Boston. Sa sœur, donc ils sont frères et sœurs, sa sœur travaille au World Trade Center, donc elle est aux prises directes avec la destruction des tours. Et justement, par rapport à ce questionnement sur la place peut-être du chaos et la façon, parce que effectivement, je pense que le désir est un ferment. Enfin, d'ailleurs, je pense, je suis pas la seule du tout à le penser. Et c'est une très longue tradition de le penser, mais un ferment de destruction autant que de construction, quoi. Et la question que je me posais, c'était un petit peu. Bon, voilà, dans cet événement-là, finalement, si ces images me fascinent, c'est sans doute aussi parce qu'elles répondent à quelque chose de moi. Il y a une sorte de catharsis, quoi. Il y a un truc qui me prend dans ces images qui n'est pas mon désir. J'ai jamais désiré que des avions rentrent dans des tours. Enfin, je me serais trouvé sans doute bizarre d'y penser avant que ça soit fait. Mais voilà, il y a une force qui est là. Il y a un ferment séditieux là-dedans qui est là. Et ces deux personnages fictifs sont pas du côté du terrorisme. Ils ont une vie qu'on pourrait dire bien léchée, quoi. Ils vivent normalement. Ils sont intégrés dans leur vie professionnelle. Ils ont une vie amoureuse, une vie intime, etc. Mais la présence de ce chaos subi va révéler pour eux-mêmes les contradictions qui les habitent, en fait. Et le fait que, ben, en fait, on est tous, et même quand on n'est pas Mohamed Atta, un genre de nid de joyeux bordel, en fait, à l'intérieur, et qu'on essaye dans notre vie, tout au long de notre vie, je crois, d'ordonnancer selon des systèmes de valeurs, des croyances, etc. Donc, effectivement, il y a une différence de traitement. Puisque Mohamed Atta m'a été soufflé par la CIA, si je peux dire, puisqu'en fait il existe avant tout dans le rapport de la CIA, qui lui consacre une petite biographie. Donc il fait environ une demi-page sur à peu près 300 pages de rapport, donc c'est pas non plus la star du rapport, mais enfin il est là. Je me suis servi de ça comme d'un fil, en prenant les éléments biographiques qui étaient donnés par le renseignement américain comme des jalons de sa vie, et puis après j'ai inventé. Et ça, c'était un peu le défi. S'il y a un défi romanesque possible, c'était celui-là. C'était comment inventer la vie de quelqu'un que je ne comprends toujours pas. Et j'ai écrit ce livre, je fais des enquêtes. Je n'écris que pour essayer de comprendre mieux des choses que je ne comprends pas bien. Je n'ai toujours pas compris, donc désolé pour si vous cherchez des réponses sur la raison de certaines personnes pour se jeter dans des tours et tuer des milliers de gens juste parce que clairement ils vont mal. Je ne sais pas la réponse à ça. Par contre, je me suis dit, et je continue à me dire, que ces gens-là sont des humains, quoi. Et qu'à partir de là, s'ils sont des humains, il y a des choses qu'on peut percevoir humainement et qu'on peut supposer, quoi. Donc finalement, il n'y a pas une si grande distinction à faire, je crois, entre lui qui est rendu vraisemblable par ce seul paragraphe dans le rapport de la CIA et les deux autres qui sont le fruit de mon imagination, mais qui sont ancrés dans la réalité économique et politique, puisque William, avant de travailler à l'aéroport, était membre de l'Air Force, donc au cœur des grands enjeux diplomatiques américains. Finalement, je les ai inventés à partir d'une trame qui est très vraisemblable aussi. Sans doute plus, d'ailleurs, que celle de Mohamed Atta, qui reste assez mystérieuse.
Et l'agent spécial qui, dans votre livre, est chargé de retracer un peu le parcours de Mohamed Atta, vous dites... il faut bien quelqu'un pour ordonnancer le chaos, pour lui donner forme et sens. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une métaphore de l'écriture ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a donc ce personnage un peu mystérieux de l'agent spécial qui apparaît au début et qui prend en charge l'enquête sur Mohamed Atta. Donc c'est grâce à lui, c'est à travers ce personnage qu'on va retracer la vie de ce kamikaze au moment même où il a disparu, quoi. Et en fait, moi, au début, j'avais mis ça parce que, bon, voilà, j'inventais. Je me dis, bon, bah là, il y a dû avoir un agent spécial qui est arrivé dans l'aéroport. Et en fait, je me suis beaucoup attachée à lui parce qu'il était aux prises des mêmes difficultés que les miennes, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, il va falloir raconter un truc qui est pas racontable. on a des éléments, tout peut servir d'indice. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui peut expliquer à un moment donné, sinon expliquer, au moins donner quelques éléments de contexte à cette violence-là, quoi, qui se déchaîne d'un coup. Donc là, il y a 1000 strates, quoi, parce que je me suis, enfin, comme je le disais, j'ai écrit très longtemps après avoir commencé à me documenter sur ces questions de terrorisme. Et du kamikaze en particulier, mais enfin, il y a des sociologues qui expliquent que tout ça, c'est sociologique. Il y a des gens, des historiens du contemporain qui donnent des raisons d'équilibre entre différentes nations, différents systèmes économiques qui sont tout à fait convaincantes aussi pour expliquer le terrorisme, bon, islamiste en l'occurrence, mais le terrorisme en général. Il y a des explications psychanalytiques qui sont très très bonnes et qui ont été en plus, enfin, c'est un champ qui est revenu malheureusement très, très, très en vogue en France. Il y a eu beaucoup de publications là-dessus depuis 2015, puisqu'on a à notre tour été frappé par des attentats du même ordre. Donc tout ça, c'est des pistes. Moi, en tant que romancière, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne, je n'ai pas d'expertise aucune, en fait, à part les armes de la littérature, qui donnent le joker majeur qu'on peut piocher à droite et à gauche, et que si ce n'est pas cohérent parfaitement, bah, c'est aussi le jeu du roman, quoi.
Ces deux romans qui contiennent tous les deux de la philosophie, de la psychanalyse, de la psychologie, de l'histoire. Alors vous, c'est davantage Bernardo Carvalho dans le corps du texte. Vous, Fanny Taillandier, vous donnez une documentation à la fin du livre. Comment ça circule, le rapport entre justement la fiction et la documentation?
Moi, je ne suis pas un auteur à se documenter tellement. Je n'aime pas ça. C'est mon truc. Mais je peux même me documenter, mais ce n'est pas un but et ce n'est pas très rationnel. Je fais un peu d'une manière chaotique. Et là, ça servait au personnage plutôt. Et parfois, c'est des clichés. Parfois, c'est des choses qui m'intéressent et que je trouve qui sont vraiment intéressantes. Mais c'était comme ce type était tombé dans un piège. Il comprenait pas comment s'en sortir et il tâche de lire ou de reprendre toutes ses lectures, toute son information, tout ce qu'il a connu au long de sa vie. Et là, il y a Bataille, il y a Sade, il y a plusieurs choses, mais c'est plutôt ça. Et alors, c'est moins une documentation qui vient a priori que une philosophie, une psychanalyse ou des clichés psychanalytiques aussi qui interviennent dans des moments du texte pour servir à un besoin de ce personnage-là personnel.
Et vous, cette documentation?
Alors cette documentation, alors je suis souvent, enfin, on m'a plusieurs fois posé la question de pourquoi avoir mis cette documentation à la fin. En fait, c'est vraiment un hommage aussi au livre que j'ai lu, quoi, parce que dans ce que j'aime faire quand j'écris et quand j'invente des livres, c'est beaucoup lire, en fait. Et du coup, voilà, c'est un salut sincère à des gens que j'ai lus et qui m'ont, à un moment donné, montré des voix, etc. Après, comment ça se passe dans l'écriture? Bah, encore une fois, c'est un sujet... moi, je n'ai pas d'expertise. Et sans doute que la vérité sur le 11 septembre 2001 éclatera un jour tout autre que celle qu'on croit connaître aujourd'hui, que celle que j'ai mise en scène là. Et je me dis que peut-être, si ça se trouve... Dès l'année prochaine, quelqu'un sortira des documents classés et dira « Bon, alors c'est comme ça que ça s'est passé et tout sera périmé. Tout ce que j'ai dit sera
Vous pensez vraiment que ça peut émerger tout autre ? Non, parce que c'est une question qu'on se pose à partir du moment où vous réfléchissez à ce qui est possible et impossible dans un tel événement. On sait bien que c'est sur ça que fleurissent les discours complotistes, négationnistes. Du coup, est-ce qu'il y a peut-être pas une responsabilité, mais un rôle particulier de l'écrivain de fiction, de faire de la fiction à partir d'événements qui sont fictionnés et des fois totalement tordus?
Oui, bah, d'autant que c'était fascinant, hein, parce que bon, j'ai évidemment beaucoup travaillé avec Internet, et alors tous les jours, les pages Wikipédia du 11 septembre et de Mohamed Atta changent tous les jours. Il y a des gens tous les jours qui viennent modifier la version des faits, donc c'est... Bon, C'est assez drôle pendant un temps, puis au bout d'un moment, c'est carrément angoissant parce que bon, ça se transforme trop, quoi. Mais après, en fait, le fait même que ça soit réinventé par tout le monde, ça dit bien que c'est une matière à récit, quoi. Et donc, en fait, c'était... Moi, je me sens pas de rôle spécifique à dire la vérité par rapport à ça. Moi, même si c'est central et que ce livre se déroule, le roman se déroule la journée du 11 septembre, moi, je n'ai pas écrit un livre sur le 11 septembre pour le 11 septembre. C'est parce que il me semble que ce 11 septembre 2001, c'est l'adieu du 20e siècle et la naissance du 21e. Et que, à partir de cet événement et des arborescences qui dessinent quand on va un petit peu chercher du côté de l'histoire, notamment de l'histoire des guerres, des interventions américaines dans différents pays, mais aussi du côté de l'histoire des religions, des transformations de la place du religieux dans différentes aires géographiques, et notamment en Occident d'ailleurs. À partir de là, on peut saisir tellement de choses de ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui me fascinait. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire et de mener ce livre à terme, quoi. Je n'ai pas de message à délivrer et je suis contente de ne pas en avoir à délivrer parce que de toute façon, je pense que ce message de cet attentat était un message déjà tellement fort et puissant et trop fort et trop puissant et d'une violence inouïe. Les réponses qui lui ont été données par le gouvernement américain de Bush à l'époque ont été aussi tout à fait trop fortes et trop violentes. Et finalement, c'est juste une petite étape dans des histoires de bataille qui courent pendant des siècles, quoi. Donc moi, j'interviens juste à un moment en disant, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces écrans-là? Qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, quoi? C'est plutôt ça la question que je me pose.
Fanny Taillandier, écrit sur un attentat à New York. Vous, Bernardo Carvalho, vous êtes brésilien, vous écrivez pas sur le 13 novembre de 2015 à Paris, mais ça joue ça joue un rôle important dans votre ouvrage. Est-ce qu'il faut une certaine distance géographique et ou affective pour écrire sur de tels événements?
Je sais pas. Avant de publier le livre en France, je suis venu ici pour parler aux libraires. Et il y a eu une réunion avec des libraires à Lyon. Et moi, je m'entendais très bien avec les gens avec qui j'étais assis à table. C'était un déjeuner et il fallait qu'on se lève pour présenter le livre à un certain moment. Et j'étais avec trois libraires de Lyon et ça se passait très bien. Et je me suis levé pour présenter le livre. Et là, j'ai raconté, tâché de résumer un peu ce qui était le roman. Et contrairement à vous, je ne crois pas que c'est central, les attentats de Paris. En vérité, dans le livre, c'est même de la fiction, parce que c'est un personnage, le pervers, un copain du pervers, qui dit que le pervers est mort dans les attentats juste pour manipuler l'autre. Alors ça se joue même pas de l'attentat réel, mais de la fiction. Mais en tout cas, j'ai expliqué ça au libraire. Et soudain, quand je reviens à table, ils ne me parlent plus. Et je ne comprenais pas. Et ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, ah oui, c'est intéressant, mais tu sais, les attentats, on n'écrit pas dessus. Ce n'est pas encore un Brésilien, ça ne se fait pas. Et j'étais un peu choqué parce que c'était de la fiction, c'était pas sur l'attentat, c'était vraiment quelque chose qui marchait, qui était intègre dans mon roman et qui était en détail en plus et qui jouait avec la fiction et la manipulation et les désirs et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui était organique dans le livre et je me suis dit c'est un préjugé curieux parce que j'ai même pas compris pourquoi un Brésilien écrivant, en faisant de la fiction, un roman ne pouvait pas mettre les attentats de Paris dans son roman. Et je ne sais pas, mais enfin bon, ça c'est des clichés qu'on retrouve à la longue. Par exemple, moi, quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Mongolia, ce n'était pas la Mongolie non plus, c'était un pays halluciné. Et c'était très difficile de faire passer à l'étranger parce que, pour un Brésilien, d'écrire sur la Mongolie, ce n'était pas permis. C'était pour un Anglais, peut-être un Américain, un Allemand. Mais là, pour un Brésilien, c'était deux exotismes qui s'y confrontaient. Et ça ne marchait pas parce que ça, un annulait l'autre. Non? Et alors, je ne sais pas, pour les attentats de Paris, c'est un peu ça que s'est passé.
Et oui, je ne sais pas si j'ai répondu.
Non, mais ça, si vous répondez, ça, effectivement, les attentats eux-mêmes ne sont pas centraux, mais comme le djihadisme est quand même, enfin, le territoire, il y a un territoire de djihadisme où va votre personnage principal, c'est pour ça aussi qu'on peut les considérer quand même comme centraux, au sens où on peut considérer que les attentats de Paris sont l'aboutissement, enfin, un des aboutissements de ce qui se passe oui. par ailleurs sur votre écriture.
Oui, mais moi, il y a une autre chose, c'est que je suis brésilien, et je ne sais pas si c'est connu ça en Europe, mais il y a plus de gens tués annuellement au Brésil qu'en Syrie. Et alors, il y a quelque chose pour moi que les attentats ne sont pas vraiment un événement nouveau ou inédit. Il y a quelque chose de la violence que vous éprouvez avec les attentats de Paris, que pas moi, Brésilien privilégié, mais que la population brésilienne, les pauvres, les noirs surtout, avec le racisme qu'on a au Brésil, ils souffrent ça depuis toujours. Et ça, c'est étonnant. Il y a plus de morts assassinés au Brésil par an qu'en Syrie pendant la guerre, sauf que la guerre au Brésil n'a pas été déclarée. Et alors, je trouve qu'il y a quand même, pour moi, l'idée de terrorisme, d'attentat et tout ça, c'est moins... Peut-être c'est différent de l'idée qu'il peut avoir un Français ou un Américain qui a toujours pensé qu'il était protégé dans un pays qui était un peu immune à ce genre de violence. Moi, je viens d'un endroit où la violence, elle est permanente malgré le fait que moi, je suis d'une certaine façon, en étant d'une classe privilégiée, responsable pour sa présence, non ? Mais elle me touche aussi. C'est un peu suicidaire, c'est un pays suicidaire. Et ça, je trouve que c'est, pour moi, ça donne une perspective peut-être par rapport au terrorisme qui n'est pas la même d'un Français dans le libraire de Lyon. Il me disait que je ne peux pas écrire sur ça. Et je trouve, ce que je reconnais à l'intérieur du terrorisme, et je reconnais aussi à l'intérieur des classes dominantes au Brésil, c'est un processus suicidaire vraiment essentiel et qui, moi, je crois que, je ne sais pas exactement, je ne suis pas théoricien, psychanalyste ou quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose là-dedans qui a à voir avec l'insupportable de ce qui nous contredit et de cette manière de ne pas être capable de confronter ce qui nous contredit. Pour moi, il a ça, et là, le désir, pour moi, c'est très emblématique de ce genre de rapport, de relation.
Sur cette question quand même de la proximité ou de l'éloignement, Fanny Taillandier, j'imagine que vous étiez déjà en train d'écrire ce livre quand se sont produits les attentats de Paris. Et en plus, je crois que vous enseignez dans un lycée, enfin dans un collège, dans un établissement en tout cas, par lequel était passé un des terroristes du Bataclan. Est-ce que ça a fait obliquer votre écriture ? Enfin, est-ce que ça a créé quelque chose dans ce livre-là ?
Oui, en fait, c'était assez. C'était une des choses qui m'ont frappé à ce moment-là. C'est que, effectivement, j'avais toujours réfléchi sur le 11 septembre comme sur un film, en fait. Mais vraiment. Et pourtant, j'étais allée entre-temps, donc entre 2001 et 2015, j'étais allée à New York, donc j'avais bien vu qu'il y a un mémorial, qu'il y a un trou, en fait, en plein dans la presqu'île de Manhattan, et que c'est une cicatrice qui est très visible, et l'ambiance à cet endroit est quand même très particulière, quoi. Donc, j'étais apte à le concevoir, mais en fait, le fait de voir de près, en fait, et de vivre une violence similaire, on va dire, clairement pas comparable, mais du même ordre, ça m'a fait réécrire beaucoup de choses, en fait. Ça m'a fait ressentir des choses que mes personnages ne ressentaient pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais alors là, ça tient pas du tout debout, quoi. En fait, non, on commence par avoir peur, par exemple. J'avais pas pensé qu'on avait peur. Alors qu'une fois qu'on s'est mis à cavaler dans les rues de Paris parce que la police dit « allez pas par là » et qu'on se rend compte que en fait, les endroits qu'on fréquente sont devenus tout d'un coup des monceaux de gerbes, de fleurs et qu'il y a des gens qui pleurent, etc., ça change tout, quoi, même dans la perception de l'espace. Donc du coup, effectivement, ça a beaucoup changé les choses. Après... plus largement, je pense qu'il ne faut pas voir le terrorisme comme un accident ou comme une exception. Quand je me suis penchée un petit peu sur l'histoire du terrorisme, je me suis rendu compte qu'il ne se passe pas un an sans qu'un attentat soit commis dans ce qu'on appelle l'Occident. Donc pour faire vite, l'Europe et l'Amérique du Nord. il y a toujours des attentats, et pour toutes les causes possibles et imaginables. Donc finalement, ça incite plutôt à considérer le terrorisme non pas comme une donnée présente en permanence, puisque ça reste violent et c'est conçu pour l'être, et son nom l'indique, hein, le but c'est la terreur, donc ça reste ça, mais comme des faits d'armes dans des lignes de front qui sont plus lointaines, quoi. Et ça, je trouve que c'est peut-être plus pertinent de le regarder comme ça, quoi. De se dire, ça fait partie d'une histoire qui ne se joue pas à cet endroit-là, forcément. La guerre qui s'est jouée à Paris en 2015 ne se jouait pas à Paris, en vérité. Elle se jouait en Syrie à ce moment-là. En 2001, à New York, ça se jouait sur d'autres endroits de la planète, notamment en Afghanistan et au Pakistan, mais aussi en Arabie Saoudite. Enfin, bon, c'est... Voilà. En fait, le terrorisme, c'est une forme comme des bulles de guerre qui... Et je trouve que c'est plus intéressant de le regarder comme ça, parce que tout d'un coup, on comprend le sens et on comprend... Alors, attention, expliquer n'est pas excuser, mais on comprend aussi le fait même, c'est-à-dire qu'on peut concevoir dans un rapport de guerre que le terrorisme soit une arme. Ce qu'on ne peut pas du tout comprendre si on le voit juste comme une violence, en fait. Et je trouve que c'est important de le garder à l'esprit, en tout cas.
Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Bernardo Carvalho, que vous n'avez pas forcément comme Brésilien le même rapport à la violence qu'un Parisien ou un New-Yorkais, dans le livre, à un moment, il y a votre personnage, donc Dura, qui a une thèse sur, qui fait comme ça une conférence sur la violence dans une favela, et il est interpellé par quelqu'un qui lui dit mais bon, pourquoi tu t'intéresses à la violence partout dans le monde alors que justement au Brésil, il y a de quoi faire, quoi. En gros, je résume de manière fausse et très synthétique. Qu'est-ce que vous dites si on vous pose la même question? Pourquoi est-ce que vous là vous intéressez à des formes de violence qui sont pas celles du Brésil?
Oui, je disais que c'est le rapport différent, c'est pas par rapport à la violence, mais par rapport au terrorisme, non? Parce que le terrorisme, il existe hors de l'Occident aussi depuis toujours. Les gens meurent tout le temps dans des attentats terroristes partout, en Afrique, en Asie et tout ça. Ça se passe aussi. Et c'est bizarre parce qu'on compte différemment et on s'impressionne différemment aussi par rapport à ces attentats-là. S'il y a, je sais pas, c'est un cliché de dire ça, mais une centaine d'enfants qui meurent en Afghanistan comptent moins que 10 personnes qui meurent à Bastille, par exemple. Et ça, c'est triste, mais c'est le fait. C'est un truc, même pour nous, au Brésil, par exemple, dans des journaux, s'il y a ça, les deux faits, on va donner plus d'attention à l'attentat de Paris, évidemment. Et ça, c'est curieux. Je ne sais pas. Alors, je disais que c'est plutôt pas le rapport à la violence. Je crois qu'il n'est pas pareil partout, tous. On a même un peu l'horreur, il y a ce rapport à la violence. La violence est terrible partout et tout ça. Mais l'idée que le terrorisme soit nouveau, soit inédit, ou soit quelque chose de différent de la violence qui se passe ailleurs, non? Je crois que c'est nommé, et il y a des endroits comme le Brésil, par exemple la guerre civile qui n'a pas été déclarée au Brésil contre le noir dans les favelas, ça existe depuis toujours. Les gens meurent de la façon la plus épouvantable possible, sans que les assassins soient jugés, et on ne dit rien, et ça compte pour du beurre. Et le passage, là, c'est le type, le rat, qui est ce professionnel de la violence à New York. Il est confronté par un étudiant dans une université qui a été créée dans une favela dans la banlieue de São Paulo, en disant ça, ici, on tue plus qu'en Syrie, et pourquoi vous allez en Syrie et pas ici? Et vous faites la comparaison avec moi, c'est ça? Et pourquoi...
Non, je vous pose cette question, parce que votre roman, justement, il est sur la violence ailleurs qu'au Brésil.
Je crois que j'ai un point faible, comme le personnage. Lui, il n'arrive pas à gérer la violence intime dans sa vie privée. Et moi, pour moi, la violence au Brésil, c'est quelque chose de très proche. Peut-être c'est mon intimité. Et pour moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile de prendre des détours et de faire des métaphores qui passent par l'étranger ou qui passent par un ailleurs que d'attaquer directement. En plus, j'ai l'impression que les genres de littérature que je fais, je ne sais pas comment expliquer, mais je crois qu'elles seraient moins efficaces si je... Je ne sais pas si elle est efficace, ce n'est pas ça le terme, mais elle serait moins abouti, c'est pas le mot non plus, parce que j'aime bien ce qui est mal fait, enfin, qui est pas réussi. Je trouve qu'il a quelque chose dans la faille, dans l'échec, qui en littérature, qui est pour moi formidable. Mais je trouve qu'il a quand même une impossibilité de parler directement de ça. C'est comme si j'annulais n'importe quelle possibilité de représentation. J'allais tomber dans les clichés, dans le lieu commun. Parce que là, c'est ce qu'on dit tout le jour dans les journaux brésiliens, c'est un peu de reprendre la représentation qu'on a déjà dans les médias au Brésil, non, parce que ça c'est dit, c'est tout le temps, on est là-bas, on est en train de dire ça, c'est représenté dans la presse, dans la télévision, tout ça. Et alors il a quelque chose d'un lieu commun qui, je ne sais pas comment dire, comme si c'était, comme si l'idée de la violence était annulée et qu'on était un peu anesthésié par ça. Et je crois que là, dans ce livre, comme le personnage, je prends des biais pour trouver une manière de comprendre la violence comme quelque chose de par des points de vue un peu différents, ou je sais pas, peut-être je sais pas.
Une bonne conclusion, on sait pas. Enfin, ça reste une... Il y a quand même quelque chose, effectivement, dans vos deux livres, c'est... Alors, une volonté de se saisir de formes de violence contemporaine, peut-être pas tout à fait de la même manière. On a l'impression que vous, Fanny Taillandier, vous allez dans une généalogie de cette violence, que vous cherchez un peu plus quelles sont les mécaniques qui peuvent la déclencher, qu'est-ce que ça entraîne. Dans les deux livres, quand même, il y a une place assez importante du sacrifice. On peut pas comprendre enfin, Mohamed Atta, vous avez dit que c'était un kamikaze. On peut pas comprendre la violence contemporaine sans comprendre ce qui peut mener au sacrifice.
Bah, le sacrifice est une des formes de violence. Après, je sais pas si on peut comprendre la violence, en fait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la violence nous comprend. Enfin, on est tous soumis ou face à ça à un moment donné. Après, la question du sacrifice, pour moi, c'est comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est vraiment... Il y a une énigme humaine, quoi. Et c'est un roman et ça a été un roman parce qu'il fallait que j'aille à l'endroit où on est à l'échelle de l'humain, quoi. Humainement, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Parce que quand on le voit à la télé ou quand il y a des réponses directes de on va envahir tel pays, les coupables sont là, Al-Qaïda, tout ça, c'est très nébuleux, c'est pas incarné. Quand on se place au point de vue humain, tout de suite on en cerne mieux les enjeux et les répercussions, quoi. La question du sacrifice, c'est une question qui est extrêmement... alors après, on pourrait en parler des heures, parce que dans le cas du kamikaze islamiste, en fait, c'est des mutations très récentes. C'est-à-dire que le sunnisme, qui est la branche de l'islam dont se revendique Al-Qaïda, a toujours interdit les martyrs. Donc a interdit, en fait, le sacrifice de soi, jusqu'aux années 80. Donc... Il y a eu des basculements qui étaient liés à de tout autre chose, notamment à l'émergence du Hamas en Palestine, qui s'inspirait lui-même du Hezbollah libanais, mais qui restait sunnite, etc., qui ont tout d'un coup rendu possible le sacrifice de soi comme une arme. Et c'est une des choses que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, on a vite l'impression que c'est figé, quoi. En gros, l'islamisme djihadiste va faire du terrorisme avec des kamikazes. Et en fait, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a 30 ans, c'était impensable. Et c'était impensable notamment pour les islamistes djihadistes sunnites eux-mêmes, quoi. Donc voilà, donc cette question, moi, c'est une question que je trouve très intéressante, qui m'interroge aussi dans mes propres croyances. Le sacrifice, c'est une part fondatrice des grandes religions monothéistes, toutes. C'est une part fondatrice aussi des mythologies qui nous construisent, etc. Quelle place ça a aujourd'hui, la question est posée, quoi. Ça, en même temps, ça contredit aussi une vision de l'homme comme aboutissement, quoi, de l'individu comme aboutissement, de la vie sur Terre comme quelque chose qui doit être construit et mené à une sorte de perfection. Il y a un dialogue qui est devenu un petit peu difficile. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Brésil sur ces questions-là, mais en tout cas en France, je trouve que c'est très fort, avec l'idée qu'on est un pays laïque et avec des valeurs laïques qui sont très belles, qui sont de tolérance, qui sont de... de respect de l'intimité aussi qu'il peut y avoir dans la foi, mais qui mettent à distance ces questionnements-là, en fait. De qu'est-ce que c'est mourir pour des causes? Qu'est-ce que c'est l'au-delà? Qu'est-ce que c'est croire que la vie peut être meilleure dans la deuxième vie? Donc croire à la deuxième vie, etc. C'est des questions qui ont un peu déserté le débat public en France, parce qu'on n'est pas sur cette culture-là, et qui sont quand même très intéressantes, et qui, en tout cas, éclairent d'un jour très différent cette violence-là.
Bernardo Carvalho, il y a non seulement votre personnage principal qui a fait sa thèse sur la violence, qui a irrigué ensuite les manières de gérer les conflits, mais l'autre personnage, il travaille aussi sur la violence et précisément sur le fait, le sacrifice et la manière dont le fait que les monothéismes aient changé le rapport au sacrifice et peut-être fait déboucher d'autres formes de violence.
Oui, je ne me souviens pas exactement, mais l'autre, il travaille avec la neuroscience et il tâche de...
Ils pensent qu'on peut à peu près résoudre la violence par la neuroscience.
C'est une méthode qu'ils ont conçue à Berlin pour convaincre les méchants à devenir des bonnes personnes avec des...
C'est des formes particulières de déradicalisation.
De l'énergie du bien. Enfin, ce qui est intéressant pour le sacrifice, c'est il y a Bataille en France qui en a écrit énormément. Et ça, je trouve que c'est curieux, c'est que le sacrifice, il est toujours présent. Et on ne le voit pas, mais on maintient des rituels de sacrifice un peu cachés, un peu déguisés. Et de manière que quand on voit un sacrifice, même si on parle d'un sacrifice qui est comme dans une civilisation au Mexique ou je ne sais pas quoi, on croit que c'est l'horreur, mais on est dans le sacrifice même nous-mêmes. Quoi. C'est un truc de tradition. On a toujours des rituels de sacrifice qui sont un peu déguisés en société. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est important, politiquement important, pour comprendre l'humain ou le terrorisme ou la violence, c'est de se dire qu'on est tous pareils et qu'il y a quand même le mal, il peut être en nous, quoi. C'est ça qui est intéressant pour moi, et c'est ça qu'il y a une force du désir pour moi et de la contradiction qui dit beaucoup sur ça. C'est que le mal n'est pas l'autre nécessairement, c'est ça que Bush a essayé de faire, mais le mal, il est en nous, quoi. Et s'il y a quelque chose, la contradiction, qui nous fait, qui nous approche beaucoup plus qu'on ne voulait, quoi. Des terroristes et tout ça. Pour moi, c'était très choquant quand il y a eu le 11 septembre, qu'il y ait des gens qui ont applaudi ça partout dans le monde, des gens de gauche, par exemple, qui ont applaudi ça, parce que c'était l'attaque contre l'Empire américain, et de fait, c'est David vide qui allait, qui faisait, c'est fascinant, quoi. C'est un truc, c'est atterrant et c'est fascinant. Et alors, comment on arrive à gérer cette fascination-là et la position de, par exemple, on est évidemment que les États-Unis, ils sont impérialistes, ils font des massacres épouvantables dans le monde. Parfois, on ne voit pas, parfois, on en parle. Mais pourquoi on ne peut pas vivre avec la contradiction que ces pays-là qui font des choses épouvantables ailleurs peut être génial dans plusieurs choses. J'ai l'impression, c'est difficile, je ne sais pas comment m'expliquer dans une langue étrangère, mais pour moi, c'est ce qui est intéressant dans la politique, et c'est ça que le terroriste va contre, parce que pour lui, il ne faut pas qu'il y ait des contradictions. Soit on fait des actes méchants et on est absolument méchant, soit on va pour le bien. Mais ce qui est curieux, c'est que l'attentat en soi, c'est la contradiction en essence, non, parce qu'il veut faire la justice par l'horreur. Et alors, c'est une manière de montrer, même en allant contre les contradictions, en disant je vais contre les Américains, sont des hypocrites parce qu'ils disent qu'ils ont la société libre à l'intérieur et ailleurs, ils font des massacres épouvantables. En allant contre ça, quand même en disant moi je suis la voix de la justice, il mène cette voie-là par l'horreur. Alors, il reproduit la contradiction. Alors, je crois que la contradiction, le mal et le bien, ils sont toujours ensemble, ils viennent toujours ensemble. Et la difficulté, c'est comment on peut supporter une compréhension du monde qui accepte la contradiction, non, qui accepte le paradoxe. Et je trouve que les attentats et tout ça, c'est toujours des gens, ils veulent, apparemment, c'est qu'ils veulent le chaos, mais pas du tout, ils veulent l'ordre. Et c'est un ordre de Dieu, de quoi que ce soit, mais c'est un ordre. C'est pas le chaos. Le chaos, pour eux, c'est insupportable.
Et quand il attaque les tours à New York, c'est parce qu'il veut détruire un empire qui est complètement paradoxal, qui est vraiment le symbole de la liberté dans le monde occidental et qui en même temps a produit des actes d'une violence et d'une injustice incroyable dans le monde. Et c'est ça qui est insupportable. Comment on peut vivre avec ça? Et oui, et je crois que le désir, il est ça, quoi. C'est vraiment, il est quelque chose qui explique énormément.
Du coup, pour revenir à votre titre et à votre problème de droit en anglais vis-à-vis des Rolling Stones, la sympathie pour le démon, c'est la sympathie pour le démon intérieur, avant tout?
Je crois que c'est métaphorique, mais c'est une sympathie, c'est la possibilité de vivre avec la contradiction et de comprendre que dans le paradoxe et dans la contradiction, il y a quand même de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir vivre avec des contradictions. Ça, c'est très important. Et par exemple, c'est important qu'on soit aux États-Unis, un pays qui est super et très méchant en même temps, et qu'on puisse avoir des gens à l'intérieur qui le sachent et qui aient la conscience de ça. Et la conscience du désir, je trouve que c'est insupportable. Et pour les gens, pour le garçon qui attaquait, qui faisait l'attentat à Paris, c'est évident, ça, c'est la conscience de ce désir-là, la conscience d'une contradiction qui est interne, qui est insupportable pour eux. Il faut quand même effacer ça du monde. Et c'est pas par hasard que, politiquement, ils auraient dû attaquer le siège du Front National, et ils vont pas là, non? Ils vont attaquer des jeunes gens qui fêtent, quoi, le vendredi soir. Et je trouve que ça dit énormément de quoi il s'agit. Ça s'agit pas du chaos, ça s'agit de l'ordre, et d'une ordre qui est fondée sur les dogmas, comme les religions, par exemple. On discute pas si Jésus est né comme ci ou comme ça, c'est pour accepter, quoi. C'est ça, la contradiction ne peut pas entrer là-dedans, on peut pas discuter ça. Et la liberté, c'est justement la possibilité de faire face à quelque chose qui nous contredit à nous-mêmes. Et c'est ça que ces gens ne veulent pas.
Il y a deux occurrences du démon dans votre texte, Fanny Taillandier. C'est une fois justement dans les mots de George Bush, qui parle d'actes démoniaques, mais c'est aussi du coup dans une scène d'ailleurs assez hallucinante où les talibans forment un novice dont on devine que c'est Mohamed Atta, en lui demandant de confisquer dans tous les foyers afghans les télévisions et ensuite de tirer dessus parce que c'est par les télévisions que les démons entrent dans les foyers. C'est quoi le rapport au mot à cette idée de démon et de démoniaque?
Comme vous le disiez à l'instant, ce qui est, je pense qu'on peut, on peut reconnaître les imbéciles au fait qu'ils changent pas d'avis et notamment qu'ils supportent pas le doute, quoi. Ils supportent pas qu'il y ait deux discours éventuellement contradictoires, mais même deux discours déjà, même pas contradictoires, c'est déjà trop. Et ce qui est intéressant sur le cas de Bush, c'est que vraiment le discours qu'il prononce le soir du 11 septembre reprend, mais alors point par point, une eschatologie vraiment bête et méchante, où en gros il y a effectivement les méchants et les gentils. Les gentils, à quoi on les reconnaît? C'est eux qui ont été attaqués par les méchants, donc comme ça au moins la question est réglée. Donc tout le monde est très gentil du côté des victimes. Et du coup, on peut parler très vite de démon. Il finit par citer un psaume. Après, il y a une culture américaine vis-à-vis de la Bible qui est pas du tout la même qu'ici. Donc nous, ça nous paraît complètement. Si on imagine le président de la République française citer un passage de l'Ancien Testament lors d'un attentat, on est pris de sueur, quoi. Mais chez eux, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a quelque chose de très facile à extérioriser les figures du bien et du mal. À dire toujours, le mal c'est là, donc regardez bien, c'est là, donc fatalement ce qui n'est pas là, ça va être le bien. Et donc du coup c'est extrêmement pratique pour le raisonnement et c'est surtout très très pratique pour manipuler politiquement les foules, ou rhétoriquement en tout cas, quoi, après sans forcément convaincre, mais ça donne une légitimité immense. Et oui, après je me suis beaucoup amusé avec les talibans qui c'est véridique, hein, je l'ai pas inventé. Une des tâches qui pensait leur incomber en Afghanistan pour en faire un pays digne de ce nom, c'était de confisquer les télévisions. Alors c'est assez loin de l'image qu'on a des talibans qui lapident, etc. Ils lapidaient aussi, mais surtout il fallait pas qu'il y ait de radio et de télé. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même trop tentant, quoi, sur un événement télévisuel. Al-Qaïda a fondé cette stratégie sur la télévision. Il devait y avoir 11 attentats. Hein, il y a eu finalement que 3 cibles touchées, mais il devait y en avoir 11. Et Ben Laden était flanqué d'un type qui était son directeur de la communication, qui s'appelait Khalid Sheikh Mohamed. Et lui avait vraiment décidé qu'il y aurait 11 cibles parmi le pays. Alors, il y avait les lettres d'Hollywood, il y avait le World Trade Center, etc. Et puis, il y avait un 12e avion qui se posait sur un tarmac américain et lui sortait de l'avion et donnait une conférence de presse pour les télés américaines. Donc, il y a vraiment une espèce d'imaginaire complètement mais absurde, quoi. Il ne voulait pas d'image, puisque, alors, soi-disant, l'image représentée, c'est pas compatible avec l'islam pur. Et dans le même temps, ils fondent toute leur stratégie là-dessus, quoi. Donc, c'était trop tentant de se moquer un petit peu d'eux, quoi.
Oui, d'autant que, et vous le dites, le paradoxe, c'est que sans doute les talibans sont parmi les très rares à ne pas avoir vu peut-être ces images du 11 septembre, puisqu'ils n'avaient plus de télé. On est dans cette question des écrans. Je veux bien que vous nous lisiez, Fanny Taillandier, l'extrait de votre texte, qui est, je crois que c'est la bonne page.
Alors là, il s'agit de William, qui, lui, n'a pas quitté le sol américain à ce moment-là. William a l'impression désagréable d'avoir été plongé dans un de ces films où les machines se mettent en tête de détruire les hommes. Les fuselages graciles se sont transformés en bombes géantes. Sur le corps d'Emmy et des autres, froissement de la tôle, fusion de l'acier, explosion des moteurs, ne pas l'imaginer. Et plus nous regardons le film des événements, plus croît en nous cette même impression d'irréalité. Non que quoi que ce soit mette en doute à ce stade l'authenticité des images, mais au pays qui a inventé les avions, les gratte-ciels et le cinéma, il est impensable que ce film-là, précisément ce film-là, ne soit pas une fiction. Ici, on a construit, en même temps qu'une nation, des dizaines d'histoires qui la racontent et lui donnent sens. On ne fait pas un nouveau monde à moins. Les civilisations naissantes ont besoin de leurs épopées. On est au pays du film catastrophe et du film de guerre, bien plus vaste que ses frontières ne le disent sur les cartes. Le récit américain, mille fois tissé et retissé, a étendu sa toile, bobine par bobine, à tel point que les États-Unis existent peut-être en premier lieu sous la forme d'images héroïques. Ainsi, peut-être aurions-nous moins de mal à croire ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui si, justement, il s'agissait d'un blockbuster apocalyptique comme William en a vu des dizaines. Car alors, il y aurait des bons, des méchants, la nation à défendre, et cela suffit à donner sens aux images les plus improbables. Singes géants croquant des buildings, hommes aux squelettes d'acier venus de l'avenir explosant dans des camions-citernes. On pourrait s'y retrouver et saluer ses effets spéciaux à couper le souffle. Mais non seulement ce n'est pas un film, mais en plus, pour cette raison même, il n'est pas racontable. Venues du réel, ces images sont invraisemblables.
Il y a toute une réflexion dans votre livre sur des images qui sont à la fois parfaites et incompréhensibles, venant du réel, donc invraisemblables. Et en plus, vous introduisez dans votre texte quand même quelques images. Alors c'est de la cartographie, il y a une photo. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin, en plus de cette écriture qui est entièrement tendue sur se saisir de ces images, dans tous les sens du terme, vous avez voulu adjoindre quelques petites vignettes?
C'est venu un petit peu intuitivement. Je l'avais déjà fait dans le précédent bouquin d'introduire des images. Il se trouve que je travaille beaucoup avec des images. J'ai un dossier images qui est le plus fourni, qui doit prendre la moitié de mon disque dur. Et quand je cherche, en fait, donc notamment sur Internet, où il y a très souvent des images, je passe mon temps à m'arrêter sur des images qui me paraissent fortes et je les garde. Et donc, du coup, moi, j'ai dans la tête ces images-là. Du coup, les remettre dans le livre. De fait, ça pourrait ne pas être là, parce qu'elles ne sont pas là pour être étudiées, ou c'est pas une bande dessinée, c'est pas. Mais ça ancre. Toutes les images qui sont là sont retravaillées à partir d'images qui sont en accès libre et qui appartiennent en fait, qui sont notre bien commun, quoi. On peut tous s'en emparer. Et je trouve qu'elles permettent de baliser le regard en fait dans le texte même, alors que justement effectivement ce qui m'intéressait c'était de dire ce que les images ne peuvent pas dire, parce que les images ne racontent pas autre chose que ce qu'on voit dessus, quoi. Et tout l'arrière-plan de ces images, tout ce qui est hors champ ne peut pas être dit. Donc il y a peut-être un paradoxe. Et puis après, il y a aussi un plaisir matériel très simple qui est que j'aime bien quand il y a des images dans les livres, en fait. Et du coup, bon, j'en ai mis parce que je trouve ça sympathique, quoi.
Et est-ce que il faut raconter le fait que William donc a été interprétateur d'images, c'est comme ça qu'on dit pour l'US Air Force, est victime d'un syndrome post-traumatique classique, sauf qu'il a jamais été sur le terrain. C'est une métaphore de la puissance extrême des images, même là où on les attend pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas été sur le terrain de guerre puisse avoir été, à force de les regarder, de les interpréter, au fond victime d'un traumatisme.
Bah, en fait, c'est un fait avéré. C'est Grégoire Chamaillou qui raconte ça dans Théorie du drone, qui est un excellent livre qui est sorti sur cette fictionnalisation de la guerre il y a quelques années, par le biais notamment de l'image satellite et de la caméra embarquée. De fait, les pilotes de ces appareils-là, qui sont en général basés aux États-Unis, qui ne vont même pas sur les zones de front, alors là, en 2001, on n'en est pas encore là, ils doivent quand même un petit peu suivre la guerre elle-même, mais bon, à l'heure actuelle, ils restent aux États-Unis, eh bien, ils souffrent exactement des mêmes symptômes que les vétérans du Vietnam, quoi. Donc, il y a tout un débat en cours aux États-Unis, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais sur est-ce qu'on leur reconnaît le statut de traumatisé de guerre ou pas, quoi. Puisque, en fait, de fait, bah, quand on est à Las Vegas, parce que la base de pilotage de drones est à Las Vegas, les États-Unis ont vraiment un jeu de poésie qui est très beau dans leur réel. Donc à Las Vegas, ils pilotent des drones qui larguent des bombes au Yémen ou ailleurs. Et en fait, de fait, quand ils sortent de là, ils ont des symptômes, y compris physiques, très violents, qui les rendent inaptes à ce combat-là, quoi. Donc c'est une question, effectivement. Jusqu'où va ce pouvoir des images ? Et nous, aujourd'hui, ou encore plus qu'en 2001, on est environnés d'un rapport à... Où tout, en fait, tout, même ça, maintenant, tout de suite, on pourrait déjà être en train de le regarder sur des écrans de téléphone au moment même où ça se passe. Qu'est-ce qu'on garde de l'expérience réelle de la vie ? Ou qu'est-ce qu'on perd ? Est-ce qu'on perd quelque chose ? Si ça se trouve, effectivement, on peut vivre dans la virtualité la plus totale, je ne sais pas.
On arrive au terme de cette rencontre. Une dernière question quand même, Bernardo Carvalho, parce qu'il faut quand même justifier. Ici, on est aux correspondances de Manosque. Vous savez qu'il y a des milliers de lettres qui vont être écrites, dont sans doute des milliers aussi de lettres d'amour. Et le narrateur de votre livre dit « Les lettres d'amour sont toujours ridicules ». C'est un des personnages qui dit
oui,
ça.
Oui, c'est un personnage. C'est terrible ça parce que maintenant.
Mais du coup, là, il faut justifier. Vous êtes à Manosque.
Non, mais.
Est-ce que c'est que le personnage qui pense ça ? Est-ce que vous le pensez aussi ? Je pense qu'il faut conclure là-dessus.
C'est quoi la phrase ? C'est les lettres d'amour sont toujours ridicules ?
Oui.
Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est une citation déjà, quoi.
Bon, c'est en discours en direct au livre, donc c'est un
c'est
peu ambigu.
C'est quelqu'un qui a écrit ça, oui.
Non, d'accord. Mais vous
en général, elles sont assez. Si elles sont hors contexte, elles sont assez ridicules, mais.
Bon, vous ne vous justifiez pas. Il nous reste quelques minutes pour faire tourner un micro dans le public si vous avez des questions à poser à Bernardo Carvalho ou Fanny Taillandier. Madame qui est là.
Bonsoir. Moi, je n'ai lu que le livre de Monsieur Carvalho, mais je vais lire l'autre aussi parce que vous m'avez beaucoup intéressée. Alors, je dois dire que la violence du rat envers le narrateur, c'est dur. Moi, ça m'a beaucoup dérangée. Mais si ça m'a dérangée aussi fort, c'est parce que votre livre est très bien écrit. Et je tenais à vous dire que vous avez une belle écriture. Voilà.
Merci beaucoup. Une autre question, intervention. Monsieur.
J'ai une question pour M. Carvalho à propos d'un vers que vous citez de Vlaro de Campos, et vous dites que vous ne savez pas si ce vers existe, et qui en français est repris d'ailleurs en portugais dans le texte. Mais vous dites, est-ce que ce vers existe ou pas ? J'en sais rien.
C'est faux, c'était à propos des homophonies, parce que c'est toujours dans la manipulation. Et le type, il dit qu'il rencontre, qu'il a trouvé un poème inédit de Fernando Pessoa, d'un des hétéronymes, et c'est une homophonie, enfin homophonie c'est homo, en portugais quand on dit savoir quelque chose, ça peut dire le goût de quelque chose aussi, je ne sais pas si en français c'est pareil, non, Et alors, c'est ça, en portugais, c'est un vers qui joue sur l'ambiguïté du verbe savoir comme goûter quelque chose. Mais c'est totalement inventé parce que c'est de la fiction et la manipulation. La fiction est vraiment l'étoffe de la manipulation de ce type du personnage. Alors ça n'existe pas.
Encore une question. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Sympathie pour le démon, c'est aux éditions Métellier. Par les écrans du monde, c'est au Seuil. Merci.